notre émission mensuelle, le directeur de la rédaction du journal protestant régional des Cévennes Languedoc-Roussillon se trouve à l'Assemblée du Désert. Et oui, nous l'avons poursuivi jusque-là en ce dimanche 2 septembre. Bonjour Nicolas Boutier.
Bonjour Guylaine.
Alors Nicolas Boutier, pourquoi être ici avec votre équipe du CEP, ici à cette Assemblée du Désert annuelle ?
Alors, premièrement, c'est traditionnel. Ça fait très longtemps que le CEP a son stand. Vous me direz, c'est un peu bizarre. On vient peut-être courir un peu à la recherche des abonnements. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on rencontre notre lectorat qui est étalé sur toute la région, qu'on ne se déplace pas tout le temps dans les différentes paroisses. Et donc là, c'est eux qui viennent à nous. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir les retours. C'est souvent positif. Les gens ne viennent pas râler sur le stand le jour de l'Assemblée. Donc c'est plutôt agréable. Et en même temps, on récupère quelques abonnements. C'est toujours bien.
Dans ce numéro du mois de septembre, le CEP fait un dossier sur la nouvelle Calédonie. Pourquoi ce dossier ?
Alors en novembre, il y a un événement très important puisqu'il y a un référendum sur l'autodétermination, savoir si la Nouvelle-Calédonie devient indépendante, reste rattachée à la France ou établit un statut particulier. Et donc on s'est dit qu'on ne pouvait pas passer à côté de cet événement majeur dans l'histoire de cette île et on a décidé de faire ce dossier. C'est un dossier qui a été très difficile à monter parce que politiquement, nous ne pouvions pas nous engager, il fallait rester le plus neutre possible. Et donc c'est un dossier qui a été fait, sous haute surveillance, mais en même temps qui permet de découvrir des choses absolument passionnantes sur ce qui se vit sur ce qui se vit dans cette île et sur l'histoire qui est en train de se passer actuellement.
Alors les intervenants de ce dossier sont à la fois des Kanaks, mais aussi des professeurs de théologie qui connaissaient l'histoire, une personnalité politique, c'est vraiment tous azimuts votre dossier.
Oui, c'est ça. En fait, on est allé chercher les personnes qui connaissaient le plus le terrain. Donc, il y a en effet des théologiens qui, au moment des derniers accords de Matignon avec Michel Rocard, étaient présents et ont participé à l'élaboration de ces accords. Des jeunes Kanaks, parce que c'est aussi eux l'avenir de l'île. Que veulent-ils pour l'avenir de leur île ? Comment ils le voient ? Et puis, des personnages politiques, puisqu'on est au premier plan de cette histoire de la Nouvelle-Calédonie.
C'est aussi un numéro qui n'est pas complètement tout à fait sérieux. Notamment, j'ai pu noter votre billet, Nicolas, sur la païla, mangée trop discrètement par les protestants. Alors, c'est une belle façon détournée et amusante et rigolote de parler de la discrétion des protestants, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, malgré tout.
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on vient à l'Assemblée du Désert, tout est bien fléché. On vous dit où vous garer, quoi faire. Il y a assez de monde, vous ne vous perdez pas. Mais en même temps, si vous allez à Saint-Jean-du-Garou, à Anduze, rien n'est fléché. Donc on reste quand même dans ce phénomène de discrétion. Là, c'était des rassemblements beaucoup plus discrets. Et c'est vrai que ce qui m'a étonné, c'est que sur un week-end, je suis allé sur 3 rassemblements et aucun n'était fléché. Je ne me suis pas perdu parce qu'on m'a donné les bonnes indications. Mais on se dit, où est l'accueil ? Alors, l'accueillir, quand vous arrivez sur l'endroit, les gens sont accueillants, les moments de partage et d'échange sont très forts. Mais il y a un moment où on n'ose pas aller plus loin que le groupe dans lequel on est. C'est un peu dommage. Et après, la paella, c'était pour la blague, parce que dans les 3 rassemblements, il y avait à chaque repas de la paella. Donc, je l'ai mangée pendant tout un week-end. Mais en même temps, c'est vrai qu'on m'a soufflé l'idée de dire les protestants ont encore peur des dragons. Et on se cache toujours pour se réunir, 3 siècles après. Et donc, est-ce que c'est révélateur d'un quelque chose qui est finalement ancré dans les gènes des protestants ? Il y a peut-être un travail à faire pour que tout se réouvre et qu'on puisse se rassembler en invitant le plus largement possible.
Alors, pour rester dans notre belle région des Cévennes Languedoc-Roussillon, vous nous avez donné une information majeure en ce mois du patrimoine, c'est la position du logo du patrimoine culturel sur le temple de Galargue le Montueux, avec les travaux en perspective. À ma connaissance, c'est le seul temple qui aura ce logo.
C'est le seul temple de France, que ce soit en France de l'intérieur ou en Alsace-Lorraine. C'est le seul temple qui bénéficie de ce loto, du fameux loto du patrimoine qui va se dérouler à partir d'aujourd'hui. Vous pouvez aller chez votre buraliste pour chercher un ticket. Et alors apparemment, il y a quand même une histoire particulière sur le temple de Galargue. C'est un ancien château qui a été transformé en temple et presbytère. Enfin, c'est assez impressionnant. Et donc, ils ont décidé, la charpente menace de s'effondrer. Et donc, il faut entamer de lourds travaux. Et ils ont présenté leur dossier. Et le temple a été retenu. Donc, c'est le seul temple protestant qui est retenu, alors qu'il y a nombre d'églises. Donc voilà, c'était intéressant de le noter. Et en plus, c'est dans notre région.
Absolument. C'était très opportun. Toujours, pour rester encore un peu dans l'histoire, vous nous présentez le portrait d'Eugénie Bost avec l'article de Marjolaine Chevalier. Eugénie, c'est la femme de John.
Eugénie, c'est la femme de John. Mais attention, hein, ne trompons pas de John. Bien John Bost. On a depuis maintenant presque un an entamé une série sur les femmes protestantes qui ont marqué. Alors c'est vrai que ce sont souvent, on m'a fait le reproche, hein, un peu des femmes d'eux. Mais quand on étudie leur histoire, c'est soit elles étaient la femme de quelqu'un, mais elles étaient aussi des femmes à part entière et avec une position sociale ou théologique très ancrée. Et on trouvait intéressant quand même de toutes les présenter. Et je pense que John Bost n'aurait peut-être pas été John Bost sans sa femme, sans Eugénie, et qui l'a soutenue, qui a travaillé, qui a continué son œuvre. Donc voilà, je pense que c'était important de faire son portrait.
Nous nous retrouvons tout de suite après cette pause musicale pour la suite du dossier, Nicolas Boutier. Toujours à l'Assemblée du Désert, avec vous, Nicolas Boutier, nous évoquons le numéro du septembre du CEP, le journal protestant régional des Cévennes Languedoc-Roussillon, avec un beau dossier sur la Nouvelle-Calédonie, en raison de l'événement qui va bientôt avoir lieu, vous l'avez dit, au tout début de cette émission. C'est un numéro dans lequel on a beaucoup évoqué l'aspect régional, mais vous avez aussi un bel article sur les jeunes et la religion, dans l'interview de l'association Coexister.
Oui, c'est une association qui est assez originale, qu'on ne connaît pas forcément, même si on entend parler ou ceux qui la suivent sur Facebook voient ce qu'ils organisent. Coexister réunit tous les jeunes de toutes les religions. Alors, j'essaie de ne pas te tromper, chrétiens, musulmans, juifs et bouddhistes, tous réunis pour ensemble, je pense, réfléchir à un nouveau monde. Et c'est vrai qu'ils donnent une nouvelle énergie. Il donne une nouvelle énergie aux vieilles religions.
Donc à suivre de près. Donc ils sont présents non seulement dans la région, mais aussi nationalement.
Oui, c'est national. Je crois qu'il y a deux. Il faut que je me renseigne et que j'en parle dans le CEP. Il y a deux bureaux, deux groupes en CLR, un à Nîmes, un à Montpellier. Donc à suivre dans les pages du CEP. Je pense qu'on en reparlera pour vraiment présenter leur travail et peut-être les présenter nous au niveau local.
Si on revient du côté de notre région, vous avez mentionné la traduction de la Bible en occitan par Johan Larzac, plus connu sous le nom de Jean Rouquette. C'est aussi une première.
Alors, je crois que c'est une première qui est un peu ancienne, mais c'est la seule traduction que l'on connaisse. Et il a fait un énorme travail en revenant sur les textes, en faisant sa traduction, en faisant attention aux mots qu'il utilisait. Un peu comme les réformateurs qui ont traduit dans leur langue, ont fait un peu un travail d'unification, soit du français, soit de l'allemand. J'ai l'impression qu'il a utilisé une langue littéraire qui n'est pas perdue, mais voilà, il a bien réfléchi ses mots, bien pesé, et c'est un travail de longue haleine. Et je pense que pour ceux qui lisent l'occitan et qui s'y intéressent, ça peut être un ouvrage à découvrir, vraiment.
Avant de terminer par la quatrième de couverture que je vous laisserai lire, parce que vous en êtes l'auteur, auriez-vous d'autres articles que je n'aurais pas repérés que vous voudriez pointer aujourd'hui ?
Alors on va pas parler des journées Évangile et Liberté, je pense que vous allez en parler beaucoup à la radio.
Allez-y Nicolas, lâchez-vous. On peut très bien en parler dans plusieurs endroits.
on a fait une grande page sur ces journées qui auront lieu à la Grande Motte du 13, les 13 et 14 octobre 2018 et dont le thème sera spiritualité et bonheur. Mais je pense que si vous écoutez régulièrement FM+, vous aurez l'occasion de réentendre l'annonce et les informations et le nom des intervenants qui seront présents.
Ouais, nous n'y manquerons pas. Auriez-vous autre chose ou est-ce qu'on laisse nos auditeurs, auditrices ?
Oui. On peut juste rajouter que chaque année, le numéro de septembre, le numéro de rentrée, annonce l'arrivée des nouveaux pasteurs, les départs en retraite. Et voilà, c'est intéressant pour ceux qui... s'intéresse un peu à la vie régionale, de voir les mouvements pastoraux, les nouveaux arrivés, les départs, et voir comment l'Église vit et s'organise.
Trois femmes arrivent en effet sur le secteur de Montpellier.
Deux femmes.
Deux femmes, j'en rajoutais une.
Claire Oberkampf et Solange Weisdeo. L'une à Jacou, l'autre à La Margelle. Et puis un nouveau pasteur proposant à 7, Elliot Poujol.
Tout à fait. Alors, ce mois-ci, celui qui signe la prière de la quatrième de couverture n'est pas la même personne que celui qui a proposé un lieu de spiritualité. D'ailleurs, peut-être vous le connaissez par cœur, celui qui a proposé le lieu de spiritualité.
C'est Stéphane Lombardo, qui était à Aix-en-Provence, excusez-moi, qui était à Saint-Jean-du-Gard et qui vient de déménager dans le sud de l'Hérault et qui nous parle d'une chapelle dans la vallée de la Roya où les peintures du XVIe siècle sont toujours présentes dans leur intégralité. Enfin voilà, un très beau lieu. Et je lui dis, ben voilà, Stéphane, la tradition veut que, une fois que tu as écrit ta page spiritualité, il faut que tu écrives la prière qui va avec. Et il m'a dit, mais je me sens tout à fait incapable d'écrire une prière. Alors je m'y suis mis. C'est pas mon exercice préféré, mais j'ai écrit la prière de dernière de couverture. Voilà.
On vous écoute alors.
Merveille. Devant la nature et ses merveilles, vallées et montagnes, déserts et forêts, arbres et fleurs, nous te disons merci Seigneur. Devant les œuvres des hommes, qu'elles soient en pierre ou en bois, peintes ou sculptées, nous ne pouvons que nous émerveiller. Nous te disons merci Seigneur. Permets-nous d'avoir toujours un regard d'enfant, de nous émerveiller de toutes ces œuvres, que chaque jour nous rappelle la joie de pouvoir voir, admirer, contempler. Mets dans notre cœur la sensibilité nécessaire pour garder une certaine innocence. Permets-nous de rêver et de voyager devant toutes ces merveilles. Pour tout cela, nous te disons merci Seigneur.
Eh bien, merci à vous, Nicolas, pour cette émission sur le journal protestant régional, le CEP, qui sort pour en ce début de mois de septembre. Et à bientôt.
À très bientôt, Guylaine.
Au revoir.